Merci au Seigneur, merci à tout groupe pour ce moment, c'est vraiment génial. Bienvenue vraiment encore à tous, on est tellement heureux de se retrouver ici aujourd'hui pour cette première. On est émus, on avait avant le culte, quand on voyait que ça se passait, déjà les larmes aux yeux de voir ce que Dieu fait. Ça fait un moment qu'on prie, qu'on y croit, et c'est juste le début de ce que Dieu va encore faire. On est avec certains qui ont cheminé depuis plus d'une année, on s'est retrouvés pour prier, intercéder. C'est une joie de poursuivre l'aventure avec vous, c'est une joie de vous accueillir. Vous qu'on revoit peut-être après pas mal de temps, et aussi d'autres, peut-être on va faire connaissance, on se voit peut-être pour la première fois aujourd'hui. C'est vraiment génial de pouvoir vivre ce démarrage, ce premier culte ici. En tout cas, bienvenue à l'église Passion, bienvenue dans la maison du Seigneur. Et ce matin, c'est vraiment le début d'une aventure après des mois de gestation. Des mardis de prière, des apéros, des zooms, des bons moments ensemble. Et on va poursuivre vraiment, c'est vraiment une étape, le début. Et ce matin, j'avais vraiment à cœur de vous partager vraiment la vision qui nous anime, la vision de l'Église Passion. Et si l'Église Passion était un train, eh bien, ça serait quand vous allez à la gare, il y a un panneau qui est affiché. Et puis vous dites, ah voilà, ce train il va à tel endroit. Et puis vous dites, ben voilà, c'est là que je veux aller, c'est dans cette direction que je veux aller. Et ce matin, on a envie de vous montrer un peu la direction, la vision. Et bien sûr, elle ne sera pas complète en une demi-heure, mais ça montre un peu la direction générale. Et puis vous allez pouvoir vous dire, oui, ça c'est le train, c'est cette vision. Oui, c'est ça que, dans cette direction, je veux aussi aller avec cette équipe ou pas. Mais avant d'aller plus dans le vif du sujet, de ce message, j'aimerais faire un rapide feedback. Un petit regard dans le rétro d'où on vient. Ben, dans une voiture, un rétroviseur, c'est petit. Le pare-brise, il est grand, il est énorme sur la route qui s'ouvre. Et on croit vraiment qu'il y a une route qui s'ouvre, il y a quelque chose qui vient devant. Je vais faire un tout petit feedback, parce que ça permet aussi, en regardant derrière, de voir où c'est qu'on va. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous avez déjà vu, c'est la mode depuis pas trop longtemps. Ça marque en anglais « Oh, it started », comment ça a commencé, « Oh, it's going », comment ça va maintenant. Alors, il y a chaque fois un peu des images. Donc, par exemple, il y en a, là, c'est un astronaute. Il a commencé en tant qu'enfant à rêver de ça dans un carton et puis il a fini dans l'espace. Il y en a d'autres. Par exemple, pour Mercedes, ben, on voit la première Mercedes, puis on voit le prototype qui va sortir. Et puis, on voit aussi le chien avant, ça a commencé, puis oh, it's going dans son bain. C'est l'occasion de faire une annonce. Il y a quelqu'un qui est intéressé pour des baptêmes. Ça viendra bientôt. Pour savoir où on va, c'est bien des fois de savoir d'où on vient. Et je vais juste donner quelques bribes, mais c'est pas de ça qu'on va parler ce matin principalement, mais vraiment plutôt de la vision. Mais j'aimerais dire que la chose qui a marqué nos pas ces dernières semaines, et plutôt ces derniers mois, c'est pour moi, c'est Jésus qui est vraiment l'exemple par excellence. On peut prendre bien les personnages de la Bible, mais pour moi, Jésus, c'est vraiment celui qui nous montre le chemin dans quel sens aller. Et j'aime, dans mes messages, vous le verrez plus tard, toujours revenir à ce modèle, à notre Dieu. Et on voit dans Jean 5, verset 19, où il est dit, « Je vous le dis franchement, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. » Et le plus important, ce n'est pas nos idées, ce n'est pas nos désirs, ce n'est pas l'attente des gens, mais c'est qu'est-ce que lui désire. Qu'est-ce que lui désire? Bien sûr, c'est génial de commencer une nouvelle église, c'est le désir de nos cœurs. Plusieurs avaient cette attente, alors quand c'est que ça commence? Mais qu'est-ce qui compte avant tout? C'est faire ce que le Père fait. Et puis le faire. S'il ne fait rien, on ne fait rien. S'il bouge, on bouge. Ne pas faire parce que c'est une bonne idée, juste humaine, puis à l'inverse, pas rester inactif alors que Dieu est déjà en mouvement. Et le verset suivant nous dit... Je l'afficherai après, mais je le dis déjà, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il montrera des actions encore plus grandes et vous serez très étonnés. Et j'aime beaucoup la traduction The Message en anglais qui dit, je vais le dire en français, le Père aime le Fils et l'inclut dans tout ce qu'il fait. Mais vous n'en avez pas vu la moitié jusqu'à présent. Vous n'en avez pas vu la moitié jusqu'à présent. Et comme on l'a vu, Dieu a un plan et il veut nous inclure dedans, nous inclure dans son plan. Et moi, je suis convaincu que Dieu a un plan pour cette région. Il a un projet. Et il s'est dit, je vais accomplir ce projet avec des hommes, avec des femmes qui désirent suivre mon plan, qui sont disponibles, qui sont passionnés, qui veulent se donner, comme on a pu le chanter dans ce temps de louange. Et on sentait vraiment ce désir de Dieu, depuis un moment, de commencer ce projet. Mais en fait, on attendait de voir le Père bouger pour saisir le temps, pour voir quand et comment. avec, voilà, j'ai été pasteur d'une douzaine d'années d'une église, après j'ai fait partie d'une équipe pastorale pendant 9 ans, alors on sait un petit peu comment ça marche, puis je me suis dit, on va former une équipe, on va mettre une vision, on va faire une structure, on va faire plein de choses, dans la théorie, et Dieu nous a surpris. Le Père a bougé dans le ciel pour qu'on s'active sur la terre. Elle était passée vers 4-5 heures du matin, il y a eu soudain un coup de tonnerre, mais puissant. C'est pas on entend gronder l'orage, tout à coup il s'approche, c'est tombé de nulle part. Et ça nous a tous réveillés, et j'ai l'impression qu'il était tombé dans ma chambre. Et comme ça arrive souvent, des fois quand je suis réveillé. Je m'endors vite le soir, alors si je suis réveillé au milieu de la nuit, je suis réveillé. Et je me suis donc levé. C'était plus question de dormir, puis je me suis dit, je vais prendre un temps avec Dieu, je vais profiter, je vais à la cuisine pour me tirer un café. Ça aide pour le réveil aussi, c'est pour ça qu'on a mis une machine à café à l'entrée de l'église, non? Parce qu'on a envie du réveil. Et puis le verset clé sur le calendrier, juste vers la machine à café, ça aide pour ceux qui n'ont pas le temps de faire un culte personnel, non? Ça ne remplace pas, mais on a quand même toujours ce feuillet du calendrier qui dit, il y aura un homme qui sera comme une protection contre le vent et un abri contre l'orage, dans Ésaïe 32. Puis ensuite, je vais au salon avec mon café pour prendre un temps avec Dieu, lire ma Bible. Puis là, c'était l'année passée, je m'étais fait un défi de lire la Bible en 300 jours. Et je vais à ma lecture du jour, c'est aussi dans Ésaïe, mais c'est un autre, c'est au chapitre 4, qui dit quasi la même chose. Au milieu de l'orage, il y aura un abri, il y aura un refuge, il y aura ma présence. Et je ne suis pas du genre à avoir des signes partout, sur chaque chose qui se passe. Mais là, je me suis dit, mais Seigneur, tu as quelque chose à dire. Ce coup de tonnerre absolument fou. Et puis ensuite, ce verset du calendrier, puis ma lecture du jour, ça dit en plus la même chose. Et là, j'entends le Seigneur me dire, c'est le coup de pistolet du starting block, David. Ça fait un moment que vous attendez, mais c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'y aller. Et comme à mon habitude, je note cette pensée de Dieu. Vraiment, je me suis dit, waouh, c'est maintenant, rien n'est prêt. Et le jour même, on part en voiture avec Diane, avec ma femme. Puis elle, tout à coup, elle me dit, tu sais, Dieu m'a parlé par rapport à ce coup de tonnerre. Je dis, mais c'est pas vrai, oui. Et puis elle me dit, ouais, Dieu m'a dit que c'était comme le coup de pistolet qu'il fallait aller de l'avant, qu'il voulait un réveil, qu'il voulait aller de l'avant. Puis je dis, mais c'est complètement fou. Tu sais, je suis pas juste en train de te dire, ouais, moi aussi, comme des fois on dit évangéliquement. J'ai dit, tu peux aller voir dans mon ordinateur. J'ai noté ça, vraiment. Mais moi, j'imaginais commencer les choses en ordre. Et puis Dieu nous a appelés à commencer alors qu'on n'avait rien. Pas d'équipe, pas de musicien, pas de structure, pas de nom, rien du tout. J'ai dit, Seigneur, on n'a pas d'équipe, on n'a pas de louange, pas d'équipe louange. Et là, j'ai vraiment entendu cette voix qui me disait, l'important, c'est que moi, je sois dans l'équipe. L'important, c'est que moi, je sois dans l'équipe. Et ça, j'ai envie que ça reste toujours. L'important, c'est que moi, je sois dans l'église. L'important, c'est que moi, je sois dans ta vie. C'est tout ce qui compte. C'est la seule chose que tu as à retenir de ce message. L'important, c'est que lui soit là. Et on a débuté un petit peu comme les disciples dans la chambre haute, en priant pour le Saint-Esprit à s'attendre à lui pour qu'un jour, c'est comme ça qu'a commencé la première église, ils se sont réunis, le Saint-Esprit est venu, Pierre a prêché, puis ça a démarré. Et de fil en aiguille, ce petit groupe qu'on était, il a commencé à grandir. Finalement, ce n'était pas juste un groupe de prière pour prier pour le futur. On a commencé à vivre l'église, il y a eu des pensées, des impulsions, prier les uns pour les autres, des guérisons, on vivait déjà ça. Parce que l'église, c'est lorsque 2, 3 se rassemblent, c'est lorsque Jésus se manifeste, c'est quand on le loue, quand il parle, quand il agit. Nous sommes l'église, tu es l'église. Et aujourd'hui, c'est une étape, c'est pas juste le début de l'église, c'est le début des cultes, mais c'est la suite, c'est le début d'une aventure. On se réjouit de vivre l'aventure ensemble. Et ce qui compte, c'est pas que tout roule déjà, il peut y avoir des petits couacs, il y a encore plein de secteurs, plein de besoins, plein de choses qu'on a encore faire. Mais ce qui compte, c'est que Dieu soit là. Et qu'il soit toujours plus, puis qu'on puisse être ensemble, puis qu'on puisse s'encourager à vivre des temps forts. Et j'avais vraiment cette pensée, quand je me disais, on ne sera jamais prêt, Seigneur, pour commencer des cultes. Et j'avais vraiment cette pensée, ne méprise pas les petits commencements. Dieu, il aime quand on commence petit, puis que ça grandit. C'est normal, la croissance, ça fait partie de son cœur. Et je crois qu'on a vraiment envie de continuer à chérir ce Dieu de la vie, de rester connecté à ce Dieu qui fortifie, et à garder le focus sur l'essentiel. Et ce coup de tonnerre, ça fait 14 mois environ qu'il a grondé dans le ciel. C'est une sacrée gestation, hein, 14 mois quand même. Est-ce que vous savez quel animal a une gestation de 14-15 mois? C'est la girafe. C'est énorme, mais c'est la réalité quand même. Hein. C'est vraiment une coïncidence parce que la girafe, c'est notre mascotte depuis longtemps. Parce qu'on dit, on a vraiment envie d'avoir la tête au ciel, comme église, mais aussi les pieds sur terre. Je crois qu'on peut vivre les deux. On peut vivre des moments forts dans sa présence, puis quand même avoir les pieds sur terre. D'ailleurs, si vous tapez sur internet églisegirafe.ch, vous arrivez sur le site de l'église. C'est véridique. Mais ça reflète vraiment ce qu'on a dans le cœur et ce qu'on veut vivre. Si j'étais comme les orateurs de passage, je dirais, dis à ton voisin, bienvenue à l'église girafe. Mais je ne vais pas le faire, parce que ça me saoule souvent sur le truc. Ça m'a titillé quand même. Là, on arrive à mon premier point de ce message ce matin. C'est un Dieu passionné. Un Dieu passionné. Et pour ça, je vais directement citer le verset le plus connu du monde, dans Jean 3,16, qui dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront pour toujours avec lui. » C'est parce qu'il a tellement aimé le monde. C'est cet amour si grand qu'il a poussé à son œuvre de salut, à se manifester. Il a tellement aimé qu'il s'est donné, qu'il a donné ce qu'il aimait le plus, c'est-à-dire son Fils unique. Et l'amour l'a poussé à donner ce qu'il aime. Et c'est ça la passion, un amour tel qu'on donne tout, qu'on donne tout. Ça, c'est le fondement de l'Évangile, le fondement de l'œuvre de salut pour le monde. On aime tellement qu'on donne tout. Et c'est cette passion qui a bougé le cœur, qui a bougé le cœur du Père. Ce n'était pas pour réparer un idéal qui s'est grippé, parce que monsieur et madame Adam ont succombé, et puis ça n'allait plus trop. Ce n'était pas non plus pour juste premièrement remettre l'ennemi à sa place. Ce n'était pas non plus pour faire un testament, un deuxième testament dans la saga, le Nouveau Testament, une deuxième tome à succès. Non, ce n'était pas ça, mais c'est l'amour. Cet amour extravagant dont on a chanté, cet amour ravageur dans son être. Un amour qui disait, mais je ne peux pas laisser l'humanité se perdre. C'est un amour tel qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur. Et on l'a chanté, cet amour extravagant, cet amour brûlant en lui, de retrouver cette connexion, cette intimité, cette amitié avec l'être humain qui l'a poussé à de donner ce qu'il aimait le plus, la passion. Et Dieu n'est pas un Dieu stoïque sur son trône, regardant ce qui se passe sur terre. Non, il est tellement passionné. C'est la nature même de Dieu. Il ne fait pas les choses à moitié, il les fait entièrement. Et avant de poursuivre, j'aimerais juste donner cette pensée. Peut-être que certains, vous avez vu déjà un début d'exaucement dans votre vie, ou la moitié d'une réponse. J'aimerais te dire, Dieu, il ne s'arrête pas au milieu. Il va accomplir la promesse dans ta vie jusqu'à son terme. Saisis vraiment cette parole. L'exaucement a commencé, mais Dieu va aller jusqu'au bout. Alléluia. Prenons Ésaïe 42, verset 13. Il est dit, « L'Éternel sort comme un héros. Il excite son zèle comme un homme de guerre. Il lance la clameur. Il jette des cris. Il triomphe des ennemis. » Comme un héros, traduit autrement, c'est comme un puissant, un brave, un vaillant. Il est dit qu'il excite son zèle, son ardeur comme un homme de guerre. Waouh! C'est un peu comme ces joueurs de rugby qui se mettent en rond avant le début du match, puis qui gueulent, enfin qui crient pardon très fort, ou ces équipes de hockey qui sont là, ah, c'est un peu ça. Il excite sa passion, il jette des cris. Est-ce que c'est l'image qu'on a de Dieu? Ou bien on l'imaginait avec la tête à moins 10, et puis des fois à 10. Non, c'est un Dieu qui est vivant, passionné. Et moi, je suis convaincu qu'on devient comme on voit Dieu. Si on voit un Dieu sévère, on va être sévère avec soi-même, avec les autres, légaliste. Si on voit un Dieu impassible, qui bouge jamais, qui ne fait jamais rien, on ne va pas faire grand-chose non plus. Et j'aimerais te dire, si tu vois un Dieu passionné, tu vas devenir aussi passionné. Si tu rencontres ce Dieu passionné, rempli de vie, tu vas aussi le devenir, parce qu'on devient ce qu'on regarde, notre modèle. Voilà pourquoi c'est important d'avoir une révélation d'un Dieu plein de vie. Moi, je suis convaincu que si Dieu était un entraîneur de foot, ben, il ne serait pas juste immobile sur sa ligne, comme ça, sans bouger. Il ne serait pas non plus juste au bord du terrain, impassible, peut-être comme un entraîneur anglais, ou à se gratter partout comme un entraîneur allemand. Ou bien alors assis sur sa glacière comme un entraîneur argentin, pour ceux qui connaissent un petit peu. Non, je crois qu'il serait rempli de passion pour la victoire. Il a donné sa vie, il a laissé ses tripes pour la victoire. Et vous savez quoi? Il a créé l'être humain à son image, avec cette vie, ses émotions, cette passion. Et il veut libérer ça dans nos vies. Il veut libérer ça dans nos vies parce qu'il est comme ça. Une passion qui s'exprime, qui s'allume, qui change le monde. Il est dit que le sixième jour, Dieu a créé l'homme et la femme. Le septième, il s'est reposé. Et le huitième jour, il a créé le neuchâtelois bien posé. Non, on fait partie même des neuchâtelois et romans. On fait partie aussi de ce sixième jour où il a créé l'être humain à son image. Donc s'il a créé, si lui il est passionné, il nous a créé aussi pour être passionné, vivant, zélé pour lui. Alléluia. Et je crois que notre rêve, c'est ça, c'est une église qui n'a pas non plus créé le huitième jour, mais une église à son image à lui, remplie de vie. C'est-à-dire une église passionnée, une église bougée par l'amour, qui donne tout et qui donne ce qu'il y a de meilleur aussi pour les autres. Et là, on arrive déjà à mon deuxième point ce matin, une église passionnée de Dieu. Et c'est génial parce que la Bible, elle regorge d'exemples d'hommes et de femmes. Il y a tellement, ils ont tellement à nous apprendre par leur vécu, par leur victoire, par leurs erreurs, par leurs écrits. Mais l'exemple qui me passionne le plus, comme je l'ai dit avant, c'est celui de Jésus, notre Seigneur, qui est venu ouvrir une voie, nous montrer le chemin, qui a ouvert une alliance nouvelle, une manière de voir. Eh bien, l'Église, ben, évidemment, elle a commencé juste après sa venue, mais c'est quand même, c'est lui qui a posé ce fondement, cette pierre, ce rocher sur lequel l'Église est bâtie, qui a donné les premières instructions aux disciples d'attendre le Saint-Esprit. Et ensuite, l'Église a démarré, la chambre haute, un petit peu comme ce qu'on a voulu vivre aussi. Et c'est intéressant de voir comment Jésus voyait l'Église. Un jour, on voit dans l'Évangile de Marc qu'il nous a dit qu'il arrive à Jérusalem et qu'il rentre dans le temple. Qu'est-ce qu'il pensait de ce temple, de ce vécu, entre guillemets, de cette Église? Mais il a vu davantage de business, de marketing et de commerce que de louange, de prière et de présence de Dieu. Et Marc 11, 15 nous dit qu'il a chassé ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il a renversé les stands changeurs de crypto-monnaie, enfin de monnaie, les vendeurs de pigeons. Et il a dit, dans Marc 11, 17, il a dit, « N'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et aujourd'hui, on ne fait pas de change dans l'Église, on ne vend pas non plus des pigeons. Jésus, il n'a rien contre les pièces de monnaie, hein. Dans leur groupe de disciples, ils avaient une caisse, il y avait un caissier, etc. Il n'a non plus rien contre les pigeons, non plus. C'est juste une petite parenthèse, vous savez, quand il s'est fait baptiser, le Saint-Esprit est descendu comme un pigeon. Enfin, on s'est marqué colombe, mais vous savez que c'est le même mot que pigeon. Alors une fois, quand c'est, on traduit colombe, puis une autre fois, on traduit... Là, c'est des vendeurs de colombes, alors on dit vendeur de pigeons. Mais quand il s'est baptisé, bien sûr, c'est cet esprit, on l'a signé plus à colombe qu'un pigeon. Mais c'est le même mot, peristera. Donc il n'a rien contre les pigeons, il n'a rien contre les colombes. À savoir, encore dans le temple, si les pigeons, c'est ce qu'ils vendaient, ou si c'était ce qu'achetaient au stand, je ne sais pas... Jésus n'a rien vraiment contre le business, mais avant tout, ce qu'il a comme rêve, comme désir pour le temple, son désir, je suis convaincu, pour une église, c'est l'essentiel, c'est une maison de prière, avant toute chose. Une maison de prière. Et la prière, c'est quoi? C'est une connexion avec Dieu, on lui parle, il nous parle, il est là, il y a la présence de Dieu. Un lieu de présence de Dieu, un lieu de connexion, un lieu où il est là. Moi, je crois que c'est comme ça que Jésus voit l'Église. Et dans Jean 2, 16, il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez ça d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Et le verset 17 qui dit la chose suivante, « Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Et en voyant Jésus agir comme ça dans le temple, ils se souviennent, les disciples, du psaume 69, 10, qui dit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Jésus est dévoré par le zèle pour sa maison. Dévoré, ça le ronge, c'est puissant. Et le mot originel veut dire consumé. Il y a quelque chose qui brûle en lui pour l'Église, pour sa maison. Et c'est marrant de voir que le mot zèle, kinia en hébreu, ça signifie aussi jalousie, zèle, ardeur, et évidemment passion. Passion. C'est fou, Jésus, il a une passion pour sa maison. C'est le cœur de Dieu, une passion pour sa maison, une passion pour l'Église. Et c'est plus qu'un nom, le nom de notre Église, passion. On a vraiment envie que Jésus se manifeste avec cette passion. C'est le cœur de Dieu pour son Église, une passion, une ardeur. Il est consumé, il y a un feu en lui. Et Jésus, c'est notre modèle pour l'Église. On a envie d'être comme lui, de guérir les malades, de partager la bonne nouvelle. Mais on n'a pas envie juste du plus spectaculaire, on a aussi envie de cet amour, de cette compassion, de ce feu en nous qui brûle. Entièrement comme lui. On a envie de ce zèle pour sa maison, pour son Église. Et ça reflète notre cœur d'une Église fervente, d'une Église passionnée. Passionnée de Dieu et passionnée pour les gens. Et notre rêve, c'est que l'Église passion, ça ne soit pas un restaurant où on vient tous les 15 jours apprécier les plats plus ou moins bons selon les dimanches. Ah, aujourd'hui, c'est quoi le menu du jour? Ah, ben j'aime un peu moins. Ah, ben c'était mieux dimanche. Ah, je me réjouis dimanche la fois prochaine. Non, on a envie que ça soit une maison de prière. On y vient pour prier, pour rencontrer Dieu. Une église de passionnés qui prions, qui cherchons ensemble la présence de Dieu, qui le louons, qui écoutons ses pensées. Une église tournée vers Dieu avant tout. Alléluia. mais ce qui vibre aussi dans nos cœurs. Ce qui vibre aussi dans nos cœurs, c'est une église passionnée de Dieu, mais aussi passionnée pour les gens. Passionnée pour les gens. Et ce n'est pas juste un slogan. Je suis convaincu que c'est le cœur de Jésus. C'est le cœur de Dieu. C'est ce Jésus qui avait ce zèle, ce feu, qui le consume vraiment pour sa maison. Comme on vient de le voir, mais aussi pour la foule, pour le monde. À ce propos, il est intéressant de voir une parabole de Jésus que Jésus lui-même raconte. Souvent, il lui disait les paraboles, c'est l'histoire avec des images, mais souvent, si on fouille un peu, ça révèle vraiment le cœur de Dieu. Et dans Matthieu 21, entre autres, on peut lire l'histoire que raconte Jésus, les versets 33 et suivants. Il y avait un propriétaire qui a planté une vigne avec tout ce qu'il faut, un pressoir, une haie, une tour pour la protéger, et il a loué cette vigne à des vignerons, lui-même, il est parti en voyage. Et au moment de la récolte, il envoie ses serviteurs pour recevoir la part, la récolte. Alors du raisin, vu qu'il avait mis un pressoir, c'était je pense aussi du raisin pressé, sûrement du pinot noir neuchâtelois. Mais les vignerons à qui il avait loué la vigne, ils ont mal accueilli ses trois serviteurs. Ils ont tabassé l'un, ils ont tué l'autre et ils ont lapidé le troisième. Alors qu'est-ce que fait le propriétaire? Il dit, je vais envoyer les renforts. Comme on voit dans les films, hein, quand il y a les trois premiers qui se font, zigouiller. Ensuite, il y a les renforts qui arrivent. Et il envoie des renforts, un plus grand nombre, pour faire face à ces méchants vignerons. Et il les traitèrent de la même manière que ses serviteurs. Et au final, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son propre fils en se disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons l'ont vu, ils ont dit, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils s'emparèrent de lui et le jetèrent hors de la ville et le tuèrent. Et moi, ce qui me frappe de cette parabole, c'est pas la main des vignerons, mais c'est le propriétaire qui insiste. Il va jusqu'au bout. Trois serviteurs, ensuite un plus grand nombre de serviteurs, et finalement son propre fils. Et moi, je suis convaincu que ça montre le cœur même de Dieu, qui va jusqu'au bout. Le Père a envoyé son fils pour sauver le monde. Fils qui a été tué, il a donné sa vie pour finalement sauver le monde entier. Jésus est venu pour donner sa vie pour sauver le monde. Et si on revient au point de départ, à la création, alors que tout avait été gâché, que l'être humain qui avait été libre de choisir, c'est ça le vrai amour, c'est de choisir d'aimer ou pas, c'est détourné en voulant goûter à ce fruit qui lui permet de savoir qu'est-ce qui était bien ou pas bien lui-même, une façon quelque part de mieux savoir qu'est-ce qui est juste, ce qui est bien, de faire un peu mieux que Dieu. Mais Dieu a voulu rencontrer et parler à tous les êtres humains. Mais ils ont préféré à l'intermédiaire, Moïse. Puis ensuite, Dieu a envoyé des prophètes. Et souvent, le peuple les a écoutés, puis après, plus. Puis après, ils ont voulu du plus concret. Ils voulaient un roi. Alors, ils voulaient du concret. C'est souvent un piège. On a envie, c'est ancré dans l'être humain. On a envie de quelque chose de plus concret. Là, à un moment donné, le peuple avait voulu tellement du concret qu'ils ont fait un veau d'or, d'ailleurs. Mais ils ne voulaient pas seulement des prophètes qui leur parlent de Dieu. Ils voulaient quelque chose de plus concret. Ils ont eu des rois. Et ensuite, ces rois se sont régulièrement éloignés de Dieu. Puis après, il y a un prophète qui revenait, puis tout le monde, le roi se retournait vers Dieu et le peuple avec. Puis après, ils oubliaient de nouveau Dieu. Et ça recommençait, ils envoyaient de nouveau des prophètes, etc. Et ça recommençait pour un tour. Mais il y avait de moins en moins de prophètes, ils étaient de moins en moins entendus. Et finalement, pendant 400 ans, il n'y a plus de prophètes. Puis il envoyait un prophète, Jean, appelé Jean-Baptiste, qui a annoncé la venue d'un sauveur. Le Père a envoyé son propre fils dans la vie, pour sauver l'humanité. Là, la passion, elle est totale, jusqu'au bout. Il a utilisé tous les moyens, jusqu'à ce qu'il le tenait le plus à cœur, son propre fils, pour sauver les gens. Pour sauver les gens, comme dans la parabole, les méchants, quelque part. Et cette passion, cette compassion, c'est le cœur même de Dieu. C'est le cœur même de Dieu. Et là, Johanna, tu peux déjà venir. Mais imaginez, les centaines d'années, il envoie un prophète, puis un autre, rejeté à tel point que la voix prophétique s'éteint pendant 400 ans. Mais Dieu aime tellement les gens, il a une passion, quelque chose qui brûle en lui, tellement pour les gens, que finalement il envoie son propre fils. Quel zèle, quelle passion, pas juste pour sa maison, pour les fidèles, entre guillemets, pour les bons, mais même pour les méchants qui rejettent ses serviteurs, même pour ceux qui n'écoutent pas les prophètes. Wow. Et nous, on aimerait vraiment la même passion pour sa maison, mais on aimerait aussi la même passion pour les gens qui ne le connaissent pas, qui ne le connaissent pas encore, pour l'instant, qui rejettent même Dieu, pour l'instant. Et notre rêve à l'Église Passion, c'est d'être touché par ce même cœur de Dieu, ce cœur de passion, de compassion. Et je crois que Dieu veut, avant d'avoir des personnes qui viennent assister à des cultes, il désire, je suis convaincu, lever des hommes et des femmes dans cette région qui sont saisis par une passion qui vient de son cœur, une passion totale, non seulement pour lui en l'adorant, mais combien c'est C'est l'essentiel, c'est de l'adorer et qu'il vienne au milieu de nous, mais aussi une passion pour le monde, une passion pour les perdus. C'est au-delà de vouloir être béni, mais c'est vouloir communiquer la bénédiction au-delà. Vous savez, on est vraiment des gâtés. En découvrant Dieu, le salut, on a découvert un trésor. Dieu, il a tout donné, mais pas juste pour qu'on garde ce trésor pour nous. Peut-être que certains, et je pense beaucoup, ces une, deux dernières années, on a vécu des moments difficiles. Le monde entier, on a vécu des moments difficiles. Personnellement, on a vécu des moments difficiles quand on perd tout, son job, ses amis, son projet de maison et j'en passe. On réalise que tout ce qui compte, c'est le trésor qu'on a dans notre cœur, sa présence. Quel privilégié nous sommes d'avoir ce trésor-là. Et en regardant au cœur de Jésus, on voit qu'il n'a pas juste créé un groupe de privilégiés, les 12 disciples, le club des sélects, mais il s'est donné pour la foule, il s'est donné pour le monde. Et on a tellement à cœur, l'Église passion de vivre des moments intenses ensemble, et toujours plus intenses, encore plus forts, dans sa présence, c'est vraiment une priorité. C'est bon d'être dans sa présence. On est tellement béni quand quelqu'un prie pour nous, quand il y a la présence de Dieu qui comme une pluie vient sur nous. Mais on est tellement béni aussi quand on prie pour quelqu'un et que cette vie elle passe au travers de nous et qu'on peut communiquer la vie à quelqu'un d'autre aussi. Parce que c'est lui qui donne, reçoit. En n'étant pas juste une église, un groupe d'hommes, de femmes qui vient se faire bénir les dimanches, mais en communiquant la bénédiction plus loin, on va être béni au passage et même plus que ça, je suis convaincu. Jésus, il est allé au bout de lui-même pour toucher le monde. Et moi, ça m'interpelle jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller aussi pour toucher ceux qui le rejettent, ceux qui ne connaissent pas encore. Où je vais aller pour que la bénédiction touche les autres? Et j'avais lancé une fois la phrase suivante. Si Dieu exaucait toutes mes prières, est-ce que c'est juste moi qui serais béni? Ou bien est-ce que mon entourage aurait changé? Si Dieu exaucait toutes tes prières, la plupart des prières que tu fais, est-ce que ta vie serait changée uniquement ou bien aussi le monde qui t'entoure? Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont passionnés de lui, qui sont passionnés aussi par lui. Est-ce qu'on a voulu, c'est plus qu'un slogan, mais la phrase « passionné de Dieu, passionné pour les gens », on a mis « de Dieu » parce que quelque part, on voulait être passionné pour Dieu, mais aussi passionné par Dieu. Puis il y avait les deux dans « de Dieu ». Dans le sens qu'on peut être passionné pour Dieu, mais c'est aussi lui qui vient nous passionner. C'est lui qui vient mettre en nous cette passion pour son Église. C'est lui qui vient mettre en nous cette passion pour le monde. Alléluia. Et dans 1 Jean 3, 16, il est dit, voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Et il est allé au bout. Et moi, je prie que cette passion du monde, elle ravage aussi nos cœurs, qui nous permet des fois de sortir de notre zone de confort. Et que la seule raison ne soit pas de venir à des réunions bénies ou le mieux possible, mais que d'autres puissent aussi la vivre, que d'autres puissent y manger. Et je crois que c'est vraiment le cœur de Dieu. Il est passionné pour ta vie. Il est passionné pour le temple, pour son Église. Mais il est passionné pour tous les gens qui ne connaissent pas encore. Et pour conclure, j'aimerais citer Spurgeon, un fameux prédicateur du 19e siècle, qui a dit « Si Christ n'est pas tout pour vous, il n'est rien. » Si Christ n'est pas tout pour vous, il est rien. Il ne va jamais entrer dans une relation en tant que sauveur partiel. S'il est quelque chose, il doit être tout. Et s'il n'est pas tout, il est rien pour vous. Et ce matin, au-delà de transmettre une vision, je crois que Dieu désire saisir nos cœurs. Ce matin, il désire saisir ta vie, il désire saisir ton cœur. Un esprit de réveil, une passion pour lui, une passion pour son Église et une passion pour les perdus. Et le psaume 37,4 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Si tu fais du Seigneur ta passion, tu donnes tout pour lui comme on l'a chanté, il va s'occuper aussi de te bénir au-delà que si tu mettais le focus là-dessus. Je crois qu'il désire ce matin toucher nos cœurs pour une passion pour lui, pour une passion pour sa maison, une passion pour le monde. Et je crois que ce message ce matin, c'est pas de faire l'effort d'être un peu plus vivant, d'être un peu plus passionné, mais c'est de rencontrer ce Dieu passionné qui va amener cette vie, cette passion. Et plus tu vas regarder à Dieu, à ce Dieu vivant qui excite ce zèle pour son temple, qui excite cette passion pour ceux qui ne le connaissent pas, tu vas devenir comme lui, tu vas devenir comme le Père, tu vas devenir comme Jésus qui s'est donné pour les perdus. Et c'est ça qu'on veut. Et on va prier pour ça juste maintenant. Mais avant, j'aimerais juste te dire la chose suivante. Si tu ne connais pas le Seigneur ce matin, ou tu connais un petit peu Dieu, tu en as entendu parler, tu as peut-être été invité ce matin par quelqu'un qui t'a dit « Viens voir, il y a une nouvelle église. » Mais j'aimerais te dire, c'est l'opportunité aussi ce matin de t'approcher de ce Dieu vivant et de rencontrer vraiment, de découvrir et d'avoir une relation personnelle avec lui. Et simplement te prier en disant, Seigneur, je réalise que tu es vivant, je réalise qu'il y a quelque chose de plus que juste ce que j'avais entendu de toi jusqu'à présent. J'ai envie de te rencontrer. Je te dis oui, viens dans ma vie. Je veux faire ce premier pas pour te rencontrer et aller plus loin. Alléluia. Et comme on vous le dira après, n'hésite pas, il y a un coin de prière. Si tu désires rencontrer quelqu'un, parler, faire un pas, puis rencontrer ce Dieu qui est pas très clair pour toi, mais il y a un coin de prière derrière. Et approche-toi et demande comment faire pour connaître mieux Dieu. Et on va t'aiguiller là-dessus. Et maintenant, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble pour qu'on se laisse toucher par ce Dieu de passion. Et je propose qu'on se lève tous ensemble pour clore et terminer ce moment. Et j'ai vraiment envie de prier que Dieu vienne passionner nos vies, qu'il vienne nous toucher. Et Seigneur, ce matin, ce n'était pas juste l'idée de parler d'une vision, de parler d'un projet, de parler d'une église, ou de parler de choses futures, du passé, mais c'est de te rencontrer, toi. Et Seigneur, ce matin, on ne veut pas partir en se disant « Ouais, il faudrait que je sois plus passionné, que je me bouge un peu. » Non, on a envie de rencontrer ce Dieu passionné et vivant. Et Seigneur, je te prie que cette passion qu'il y a dans ta vie, ce feu qui consume ton être, tu le communiques, Seigneur, tu nous le touches. Viens saisir nos vies par cette passion. Viens saisir nos vies par ce feu, Seigneur, pour ta maison, pour ton église. Viens saisir, Seigneur, ce feu et cette passion pour ta présence, pour chérir des moments avec toi. Seigneur, viens aussi saisir nos vies, ce feu, cette passion pour les gens qui ne te connaissent pas. Seigneur, on a ce trésor en nous. Mais cette passion, Seigneur, de communiquer, de faire briller cette lumière aussi pour les autres. Et Seigneur, on ne veut pas juste se forcer, prendre un joug sur nous qui ne vient pas de toi. Mais ce matin, on veut juste se laisser toucher par toi et te rencontrer. Alors viens, Saint-Esprit, touche nos vies, Seigneur. C'est ça qu'on veut vivre dans cette église. C'est une rencontre avec toi véritable. On a envie de te rencontrer. Viens, Saint-Esprit. Viens allumer un feu en nous, Seigneur. Viens allumer une passion. Viens allumer une passion pour toi, une passion pour ta maison, une passion pour le monde, Seigneur. Viens faire, Seigneur, ce miracle de ta présence en nous, Jésus. C'est tellement le désir de nos cœurs, Jésus. Alléluia. Et ceux qui ont envie de répondre à ça, disons ensemble Amen.